Bonjour Ninon.
Bonjour Jeanne.
Le Togo compte près de 90 cas avérés pour le moment et le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire il y a 3 semaines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que cet état d'urgence implique comme mesure?
Alors, premièrement, ce que l'État togolais a fait, une fois que le président a annoncé l'état d'urgence, c'est de fermer les frontières aériennes et terrestres. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il y a l'aéroport de Lomé, donc l'aéroport international du pays, qui travaille au ralenti, vraiment au ralenti. C'est-à-dire que les seuls vols qui sont maintenus, c'est les vols qui vont vers des pays qui ne sont pas au risque. Ensuite, les frontières donc terrestres vers le Bénin, vers le Ghana, vers le Burkina sont également fermées. Il n'y a plus personne qui ne circule entre les frontières, sauf cas exceptionnel. La deuxième mesure qui s'est accompagnée de cette fermeture des frontières, ça a été le bouclage des villes, c'est-à-dire qu'ils ont isolé notamment Lomé, la capitale, qui est le foyer en fait de l'épidémie, parce que la totalité des cas de Covid-19 au Togo ont été importés, en fait, viennent de l'étranger, et donc ont été importés à la capitale Lomé. Donc ils ont isolé Lomé du reste des villes du pays, c'est-à-dire de Tchévié, notamment de tout l'axe en fait qui va vers le nord du Togo, Kara, Sokodé, de Palimé. Donc il y a des contrôles militaires très stricts aux entrées et sorties de toutes ces villes pour éviter la propagation du virus. Ensuite, il y a donc avec cette annonce d'état d'urgence là, il y a eu l'annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires. Donc ça a pris effet à peu près vers le 20 mars ou le 23 mars, tous les établissements scolaires du pays, privés et publics, et la fermeture des lieux de culte qui a été un peu controversée dans le pays parce que il y a énormément de lieux de culte très actifs au Togo et ils sont tous fermés depuis maintenant près d'un mois.
Et il n'y a pas eu de mesures de confinement qui ont été mises en place autrement?
Non, en fait, le confinement au Togo et plus largement dans la plupart des pays africains, en fait, ne peut pas impliquer, l'État togolais ne peut pas impliquer des mesures de confinement à sa population parce que la grande majorité, voire la quasi-totalité du pays vit d'activités issues de l'économie informelle, c'est-à-dire des activités qui sont au jour le jour, organisées au jour le jour, de vente, de revente notamment, ou alors les taxis-motos par exemple, qui est un métier très très fréquent dans le pays. Et donc ces gens-là, en fait, si on les confine maintenant, ça veut dire qu'ils peuvent plus aller travailler. S'ils peuvent plus aller travailler, comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner de l'argent et comment est-ce qu'ils vont faire pour acheter à manger, tout simplement? Si l'État togolais décide de confiner sa population, le risque, c'est de déclarer une crise économique et sociale qui sera bien supérieure à la crise sanitaire actuelle.
Le 12 avril, justement, le gouvernement togolais a interdit la prise de personnes à moto pour des raisons sanitaires. Tu le parlais tout à l'heure, justement, des taxis-motos. Beaucoup exercent cette profession et beaucoup aussi de Togolais et Togolaises utilisent ces taxis-motos pour se rendre au travail. Quel impact elle a eu cette décision, justement, au niveau économique et social sur le pays?
Alors, ça a été déjà l'annonce a été très brutale pour la population togolaise parce que le président donc a fait un discours. Il n'a jamais annoncé dans son discours ce type de mesure-là. Il a annoncé la fermeture des écoles, le bouclage des villes, etc. Il n'a pas annoncé que les taximotos ne pourraient plus exercer leur métier. Or, le métier de taximoto au Togo, il est essentiel pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une source d'emploi pour énormément, énormément de personnes qui effectuent ce métier à défaut d'avoir un autre travail à côté. C'est une activité de subsistance qui leur permet juste d'avoir un revenu pour pouvoir nourrir leur famille. Et deuxièmement, il n'y a pas de réseau de transport en commun développé dans le pays. Le seul transport en commun qui est vraiment démocratisé au Togo, c'est les taxis, qu'ils soient moto ou voiture. Donc interdire les taximotos, c'est en fait, à proprement parler, confiner les gens sans leur dire. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus bouger parce que vous ne pouvez plus aller derrière une moto ou alors, par exemple, pour les mesures voiture, c'était Ce que l'annonce qui a eu lieu donc 2 jours après le discours du président, il y a eu un décret en fait, et dans ce décret, il disait les voitures n'ont le droit d'avoir que 3 passagers et les motos n'ont plus le droit d'avoir aucun passager. Et ça a été très 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 mal perçu par la population togolaise. Les taxis-motos se sont révoltés à Lomé, la capitale, et dans d'autres villes du pays. Ils ont refusé en fait tout simplement cette mesure en disant que si ils ne pouvaient plus exercer leur métier, comment est-ce qu'ils allaient faire pour vivre? Et comment est-ce que les gens allaient faire pour vivre? Parce que les dames qui vont vendre leurs produits au marché, elles prennent ces taxis-motos-là tous les jours. Les personnes qui travaillent dans les bureaux à Lomé, qui sont secrétaires ou techniciens, maintenanciers, infirmières, et n'importe quel métier en fait dans le pays, ils doivent prendre ces taxis-motos pour aller travailler. Alors, à Lomé, il y a simplement un système de bus qui est très très peu développé dans la ville et qui a également été partiellement suspendu ou fortement ralenti et limité à cause du Covid aussi. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que les taxis-motos, les Emid German se sont révoltés, ont refusé cette mesure de l'État et l'État a été obligé de céder, ce qui a donné lieu à la suspension temporaire de cette mesure. Après, chronologiquement, donc une fois que cette mesure-là, elle a été suspendue, l'État a promis qu'il allait proposer des mesures d'accompagnement, notamment aux taximotos, aux revendeurs, aux revendeuses, etc., à tous les gens du secteur un peu informel qui ne pourraient plus exercer leur métier si la mesure d'interdiction de prendre des passagers à moto s'appliquait. Cette mesure, elle a été mise en œuvre vers le 15 avril, si je ne dis pas de bêtises, ou même un peu avant. Ça s'appelle Novici, c'est un programme donc d'aide qui a été appuyé par des bailleurs internationaux, qui propose une aide de 12 500 CFA pour les femmes et 10 500 CFA pour les hommes. Ça fait environ entre 15 et 20 euros par mois. Et si j'ai bien compris l'aide, les taximotos auraient un petit peu plus. Une fois qu'elle a été mise en œuvre, la contrepartie, c'était de dire à la population togolaise, on vous donne une aide mensuelle, mais en échange, vous devez accepter cette mesure-là qu'on va prendre pour lutter contre la propagation du Covid-19, c'est-à-dire d'interdire les passagers derrière les motos.
Et cette aide, elle est suffisante pour vivre?
Cette aide, elle est absolument pas suffisante. On parle quand même de 15 à 20 euros par mois. Ok, le coût de la vie au Togo est moins cher que dans d'autres pays, mais 15 à 20 euros par mois, ça sert même pas à nourrir une bouche dans une ville. Par exemple, si vous habitez dans la capitale à Lomé, vous ne pouvez absolument rien faire. Si vous avez un loyer à payer, c'est dérisoire comme somme. Vous ne pouvez même pas manger, vous ne pouvez même pas dormir avec 15 à 20 euros par mois. Et on ne parle même pas si vous avez une famille. Donc cette somme-là, pour moi, elle est ridicule. Et il y a une deuxième chose aussi qui a été vaguement critiquée, c'est que cette aide-là est conditionnée à la détention d'une carte d'électeur.
Et tout le monde ne l'a pas, cette carte.
Tout le monde ne l'a pas. Pour avoir une carte d'électeur au Togo, il faut avoir une carte d'identité et le fait de placer la carte d'électeur en avant dans les critères d'obtention de l'aide, ça a été vraiment perçu comme une stratégie politique de l'État togolais parce qu'il y a eu des élections présidentielles il y a quelques mois au Togo, donc ça a été un peu une manière de dire on donne l'aide à la population qui a voté aux dernières élections.
Et autrement, à part cette aide-là, il n'y a pas de système de chômage, de sécurité sociale pour soutenir les plus précaires au Togo?
Absolument pas. Après, je me méfie de ce que je dis parce qu'on trouvera toujours des textes qui diront qu'il existe un régime de sécurité sociale au Togo, qu'il existe une allocation chômage. Moi, je parle de la réalité que je vis et que je vois. Et de ce que je vois, même si cette aide, elle peut potentiellement exister, les rouages administratifs du Togo vont faire que les populations les plus précaires n'y auront jamais accès. Jamais.
Par manque d'information?
Par manque d'informations, parce que ces TED-là, elles sont copiées sur des modèles occidentaux qui ne collent pas avec les réalités locales. Je parle pas d'un texte quelconque au Togo, mais la plupart des démarches administratives du pays, elles sont conditionnées à la détention, par exemple, d'un acte de naissance valide, d'un justificatif de domicile, ce genre de papier que la plupart des gens n'ont pas.
Il n'y a pas d'état civil enregistré en fait dans les villages et dans les endroits qui ne sont pas la capitale.
Il y a des états civils partout dans le pays. Le problème, c'est que les populations les plus pauvres et les plus précaires n'ont pas toujours le réflexe d'aller enregistrer une naissance à l'état civil. Parce que pour pouvoir enregistrer une naissance à l'état civil, il faut déjà maîtriser un petit peu, comprendre un petit peu l'organisation du système administratif. Avoir un niveau de français de base, parce que tout le système administratif togolais est en français, malgré que le pays soit indépendant, la langue officielle du Togo reste le français. Donc il faut maîtriser un minima le français. Il faut aussi pouvoir souvent se déplacer devant un agent d'état civil. Si par exemple la naissance intervient dans un village très reculé dans le pays, peut-être que la famille n'aura pas les moyens d'aller jusqu'à la ville ou le canton le plus proche pour pouvoir enregistrer sa naissance. C'est tous ces paramètres-là qui font qu'il y a encore énormément de personnes dans le pays qui ne disposent pas de ces documents administratifs qui sont pourtant essentiels à toute démarche administrative supérieure.
Pour revenir à la situation justement actuelle au Togo par rapport à l'épidémie de Covid-19, toi, pour justement aider les personnes les plus précaires autour de toi, que tu voyais qui se retrouvaient sans pouvoir exercer leur activité habituelle, tu as décidé de lancer une cagnotte en ligne pour pouvoir acheter des produits de première nécessité et les redistribuer à ces personnes-là, à Palimé, autour de toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait, comment tu as eu l'idée de faire ça et aussi. Qu'est-ce que tu vas proposer justement comme produit alimentaire de base? Est-ce que c'est forcément seulement alimentaire ou est-ce qu'il y a des produits sanitaires également?
Alors oui, j'ai eu l'idée de proposer ça juste parce que en fait, bon, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre une crise à laquelle on n'était pas préparé, on se rend compte de la fragilité de nos systèmes. Bon, au Togo, ça prend une dimension autre. Et donc j'ai réfléchi un peu à tout ce qui allait se passer dans le pays. Et je me suis dit, là, on n'est plus dans une aide à long terme, on n'est plus dans des projets, voilà, sur le long terme. Là, c'est juste, il faut raisonner à court terme. Si la crise dure trop longtemps, si les gens ne peuvent pas aller travailler pendant déjà rien qu'une semaine, ils ne pourront plus acheter à manger. Sachant que les prix, surtout quand il y a eu les premières annonces, du président avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, les prix au marché ont commencé à augmenter. Je me suis dit, mais ça va être une catastrophe. Donc là, on s'est dit, bon, ok, comment on peut faire? Comment on peut faire? Nous, à titre individuel, moi et mon entourage, on s'est ravitaillé. Alors on a bien rigolé hein, sur les Français quand on a vu qu'ils ont dévalisé les pâtes, le PQ et tout ça. Mais le problème, c'est que moi, pour le coup, au Togo, je l'ai fait. Pas parce que j'étais paniquée pour moi, forcément, mais parce que je me suis vraiment dit, en fait, dans un pays qui est aussi fragile que le Togo, il faut pas blaguer, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est. Quand on voit une crise arriver, il faut vraiment se préparer, se ravitailler comme il faut et penser aux autres autour de nous. Donc nous, on a fait un très gros ravitaillement déjà avec nos ressources propres, on va dire. Et après, j'ai commencé à voir que la crise pourrait prendre de l'ampleur avec les mesures qui étaient annoncées. Et en comparant un petit peu ce qui se passait dans les autres pays africains voisins, je regardais aussi ce qui se passait en Occident et dans d'autres pays du monde. Et je me dis, non, vu comment c'est incertain, là, il vaut mieux être prêt au pire, entre guillemets, c'est-à-dire faire vraiment le plus gros ravitaillement possible, parce que de toute façon, ça servira, que de voir vraiment les gens souffrir de la faim, pour pas dire mourir de la faim.
Et du coup, qu'est-ce que ça va comprendre cette distribution alimentaire ? Est-ce que c'est forcément que alimentaire, ou est-ce qu'il y a, il y aura aussi des produits sanitaires comme du gel hydroalcoolique, des masques ou du savon ?
Au début, on était vraiment parti sur que de l'aide alimentaire, c'est-à-dire vraiment d'arriver à jauger quels sont les gens qui souffrent de la faim parce qu'ils ne peuvent plus travailler. C'était vraiment ça l'idée. Et donc, on va garder cette idée-là, ça c'est clair. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire le ravitaillement en question. Après, produits sanitaires, ce sera, selon moi, ce sera essentiellement du savon. Essentiellement du savon, parce que c'est aussi efficace qu'un gel hydroalcoolique. C'est 3 fois moins cher, c'est 4 fois plus disponible, et c'est 4 fois plus long, durable, je sais pas comment dire. Ça finit moins vite, quoi.
Et au niveau des masques, c'est possible de s'équiper en masque au Togo?
Les masques, déjà, dès qu'il y a eu à peu près une vingtaine de cas de Covid avérés au Togo, il y a un business informel de masques qui s'est développé à fond dans le pays. Tu peux trouver des masques absolument partout au Togo. Au bord de la route, il y en a à vendre partout. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements, les banques, des magasins qui imposent, qui obligent le port de masque pour pouvoir entrer. Donc, il y a plein, plein de revendeurs de masques dans la rue et tout ça. Le problème de ces masques, c'est que c'est juste de bouts de tissu cousus avec deux élastiques, quoi. C'est-à-dire pas du tout homologué, pas du tout dans les standards qu'il faudrait pour être dans les normes d'hygiène Covid-19, quoi. Mais après, vu ce que j'ai vu un peu, ce que j'ai regardé sur Internet, la plupart des médecins disent que c'est quand même mieux que rien, et les gens ont quand même. Moi, j'étais très impressionnée de voir à quel point les gens font énormément d'efforts au niveau sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de points de lavage de mains, il y a énormément de gens qui portent les masques.
Justement, la grande majorité des Togolais n'ont pas accès à l'eau directement à leur domicile. Ils sont dépendants de sources d'approvisionnement extérieures comme les forages, les pompes, les puits, les rivières. Comment est-ce que ça s'organise pour l'approvisionnement? Est-ce qu'il y a une distance de sécurité à respecter pour éviter la propagation du virus? Est-ce que c'est de l'autorégulation de la part des populations, ou est-ce que l'État régule ça aussi?
Le coronavirus, quand il est arrivé dans le pays, il y a eu certaines mesures d'adaptation qui ont été mises en place, mais globalement, la vie reste la même, hein. Les gens continuent à se comporter de la même manière au marché, devant les points d'eau, sauf certains cas qui ont été vraiment accompagnés. Il y a un marché à Lomé, je me rappelle plus le quartier. Il y a un marché où il y a les distances qui sont respectées, tout le monde doit se laver les mains, tout le monde doit avoir un masque et tout ça. Mais non, globalement, la vie reste la même. Les gens vont continuer à vivre leur vie sans tenir compte forcément de ces distances de sécurité-là. Après, pour la question de l'eau, ça, c'est un gros problème. Moi, j'écoute le discours du président. Quand il a déclaré l'état d'urgence, il dit à la population togolaise de se laver les mains, mais comment il veut faire? La moitié du pays, ils n'ont pas l'eau à la maison, quoi. Comment il veut faire pour qu'ils se lavent les mains à chaque fois, quoi? C'est juste improbable, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'associations et d'hommes et femmes politiques qui offrent, à titre gracieux et aussi de promotion, des dispositifs de lavage de mains. On en voit fleurir un peu partout, y compris dans les villages. Donc c'est comme une espèce de poubelle en plastique qu'on remplit d'eau avec un robinet et on met du savon à côté. Sauf que le problème, c'est qu'une fois que la poubelle, elle est vide d'eau, ou une fois qu'il n'y a plus d'eau dans la poubelle, les gens, comment ils vont faire pour continuer à laver leurs mains? Après, moi, vraiment, j'ai été très impressionnée de voir les efforts de la population togolaise pour s'adapter aux mesures sanitaires annoncées par l'État togolais. Les gens jouent vraiment le jeu. Après, on voit que c'est surtout qu'il y a un manque de communication, où il y a beaucoup de. L'information circule beaucoup via les réseaux sociaux ici, et notamment par WhatsApp. Et il y a beaucoup, beaucoup de désinformation avec WhatsApp. Donc les gens ne savaient pas au début forcément comment utiliser le masque, c'est-à-dire qu'il fallait le laver régulièrement. On a vu des situations comme ça avec des gens qui utilisent les masques qui deviennent marrons tellement ils ont été utilisés, tout ça, et on sait très bien que ça sert plus à rien. Mais quand même, je trouve que les gens jouent le jeu, notamment du lavage de mains, et sont assez concernés par le problème. Après, bon, ce genre de crise, ça fait ressortir tout ce qui ne va pas dans le pays, donc on peut pas reprocher aux Togolais de pas pouvoir être irréprochables sanitairement, sachant que le pays l'est absolument pas.
Le Togo compte justement, on l'a dit tout à l'heure, près de 90 cas avérés pour le moment. Au niveau du système de santé, si le nombre de personnes touchées par le virus augmente, comment est-ce que tu imagines que ça va se passer? Est-ce que les hôpitaux togolais sont prêts à accueillir plusieurs centaines de cas?
Non, ça va pas bien se passer du tout. C'est le CHR de Lomé en fait qui accueille tous les cas du Covid-19 au Togo pour l'instant. Et je crois que la capacité d'accueil de ce centre-là de malades du Covid-19 est de 200 ou 250 lits, je crois. Si on dépasse ça, je sais pas. En fait, il faut comprendre que au Togo, déjà, s'il n'y a pas de coronavirus, ça ne va pas. Donc, avec du coronavirus en plus, avec une pandémie, ça n'ira pas mieux, ça c'est sûr. Et il y avait, je crois, avant la crise, il y avait même pas une dizaine de respirateurs dans le pays. Et là, ils se vantent un peu. Là, ils ont réussi, en fait, par l'aide internationale, à faire venir plusieurs respirateurs. Et je crois qu'ils veulent arriver à terme à une centaine, voire plus, de respirateurs pour le pays. Mais voilà, l'État togolais n'est absolument pas prêt à faire face à ce type de crise sanitaire. Absolument pas.
C'est étonnant parce que quand on regarde les discours du président justement et du gouvernement, on voit qu'ils mettent en avant le fait qu'il y a 56 cas qui ont été guéris, qu'il n'y a eu que 6 décès. Est-ce que c'est un peu des faux-semblants qu'ils mettent en avant sur la scène internationale plutôt qu'autre chose et face aux Togolais en cachant un peu la vérité?
Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de stratégie politique dans ces annonces-là. Il faut voir aussi que l'État togolais n'est pas seul, entre guillemets. En fait, ils ont ouvert un site depuis l'arrivée de la crise dans le pays. Donc, ça s'appelle covid19.gouv.togo. Et ce genre de mesures, tout comme l'aide Novici dont je parlais tout à l'heure, l'aide financière aux populations vulnérables, elle n'aurait jamais été prise par l'État seul. En fait, c'est la pression d'acteurs internationaux, de grands bailleurs internationaux qui ont fait pression sur l'État et sur le gouvernement pour prendre quand même des mesures. Mais ces mesures-là, selon moi, elles sont, il faut s'en méfier en tout cas. C'est bien qu'elles soient là. S'il y avait vraiment rien, ce serait dramatique, mais j'ai un peu peur qu'elle soit là à des fins de stratégie politique et cosmétique qu'à des vraies fins de gestion de la crise sanitaire actuelle. Pour moi, c'est avant tout une stratégie de la part du gouvernement de dire, regardez, on donne beaucoup de tests. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les Togolais se moquent tellement de ces chiffres-là sur le réseau social WhatsApp. Il y a énormément de blagues sur l'évolution des chiffres du coronavirus au Togo et notamment des guérisons. Il y a une blague qui disait comment le Togo peut faire pour avoir guéri une cinquantaine de cas? Et il répondait c'est parce que quand les malades ils arrivent à l'hôpital et qu'on leur montre leur lit, ils se déclarent eux-mêmes guéris. C'est ça. Et les Togolais, ils savent très bien comment est leur gouvernement et ils s'en moquent, quoi. Quand il y a eu l'aide Novici, c'était pareil. L'aide de 15 à 20 euros dont je parlais tout à l'heure, les gens rigolaient. Et forcément, il y a des gens qui ont été prendre plusieurs, voler des cartes électorales et tout ça pour cumuler l'aide. En fait, le problème, c'est que le gouvernement se comporte mal. Et donc les Togolais répondent mal et les Togolais se moquent de leur gouvernement.
Et si jamais la situation devient vraiment compliquée au Togo, d'un point de vue sanitaire notamment, est-ce que tu envisages de revenir en France quelque temps, le temps que les choses se calment?
Clairement, oui. Bon, alors c'est clairement une chance hein, qu'on a quand on a la nationalité française. On sait qu'on peut nous rapatrier en cas de problème. Donc, je me suis renseignée auprès de l'ambassade de France au Togo. Ils ont ouvert en fait une cellule de crise. On peut les appeler, ils répondent donc à toutes les questions en lien avec le Covid-19 là. Et donc en fait, ils organisent des rapatriements depuis 2 mois environ. Et je crois qu'il y a 3 avions Air France qui ont rapatrié 200 Français environ depuis le début de la crise. Et donc pour l'instant, par contre, l'ambassade, elle rapatrie exclusivement les Français dits de passage, c'est-à-dire ceux qui sont venus au Togo pour une durée inférieure à 6 mois. Au-delà de 6 mois, on est considéré comme un Français expatrié et donc l'ambassade de France ne propose pas de rapatriement pour l'instant et elle s'autorise à le faire si la crise s'aggrave, entre guillemets. Moi, à titre personnel, j'avais prévu un retour en France de toute manière au mois de juin. Après, c'était avec un vol commercial d'une compagnie et donc bien sûr ce vol va être annulé. Après, je suis en train d'étudier les possibilités pour éventuellement rentrer en France cet été.